Chapitre 2. Fût-ce la fatigue du voyage, une certaine nervosité due aux incidents de cette première soirée à Venise, mais je dormis assez mal, d'un sommeil à la fois pesant et incomplet, d'où je me réveillai le lendemain juste à temps pour entendre frapper à ma porte. Le portier m'apportait une lettre. Je reconnus l'écriture fantasque de Tiberio Plentinalia et le cachet qui fermait l'enveloppe. La bague dont il portait l'empreinte était formée d'une cornaline gravée de signes cabalistiques. Elle avait appartenu à quelque adepte des sciences occultes, comme il y en eut tant à Venise au XVIIIe siècle. Ce bijou s'adaptait parfaitement aux allures de sorcier qu'aimait à se donner le signore Plentinaglia et qui était une des facettes de son multiple personnage. Mais en ce moment, ce qui m'intéressait surtout en lui, c'était sa parfaite connaissance de Venise, grâce à laquelle je ne doutais pas qu'il ne m'eût découvert un logis à ma convenance. Ce fut dans cette pensée que je rompis la cire conjuratoire, et Plentinaglia m'écrivait. « Mon cher et bien cher ami, puisque vous désirez devenir tout à fait vénitien, je vous conseille de vous rendre le plus tôt possible au numéro 796 des Fondamenta Foscarini. Vous y sonnerez à la porte du vieux Palazzo Altimendo al Carvini. La signora Verana vous offrira et vous fera visiter les pièces qu'elle a louées. Je ne connais rien de plus séduisant dans la Venise du Settecento. Avec les quelques meubles nécessaires, votre mezzanino sera digne du galant Casanova lui-même et du chimérique Carlo Gozzi. Voici les adresses où vous pourrez vous procurer ce dont vous aurez besoin. La signora Verana vous rendra tous les soins désirables. Dès mon retour, je viendrai vous voir en votre logis. Quant à la date, non so, comme nous disons de la vénitienne, je vous serre la main à la française. Votre tout dévoué, Tiberio Plentiliana. Je repliai le papier. Je me sentais, l'avouerai-je, un peu déçu, sans me rendre compte tout d'abord d'où venait cette déception. Après quelques minutes de réflexion, j'en découvris la cause. Plentinaglia me donnait bien des renseignements demandés, mais sa lettre ne faisait aucune allusion à notre conversation de la veille. Pas un mot de cette bizarre histoire de buste disparu en des circonstances mystérieuses. Enfin, l'essentiel était l'adresse qu'il m'indiquait et que je me répétais plusieurs fois en préparant mes ustensiles de toilette. Palazzo Altinengo ai Cavermini, Palazzo Altinengo ai Cavermini, Palazzo. Je connaissais à Venise deux palazzo, Palais Altinengo. Mais je dus constater que j'ignorais l'existence de celui que me signalait Plentinaglia et qu'il disait situé près des Carmini. Par contre, l'église des Carmini m'était familière, surtout en raison de son voisinage avec la scuola du même nom et les charmantes peintures de Tiepolo. Plus d'une fois, j'avais sonné à la porte de la scuola et payé au custode le billet d'une lire qui permettait de pénétrer dans l'édifice, de gravir son escalier à voûte de stuc et de contempler au plafond de la grande salle les saintes et voluptueuses figures dont la grâce tiepolesque donnait à ce lieu à la fois l'aspect d'un oratoire et d'une salle de bal. L'église et la scuola m'avaient donc souvent attiré dans ce quartier de Venise dont je goûtais le caractère populaire qui s'accentuait surtout au Campo Santa Margherita. Ce campo est celui de San Polo, un des plus vastes de Venise. Il ne se recommande par aucun monument spécialement intéressant, mais j'en aimais l'étendue d'allées et l'entourage de pauvres maisons et de pauvres boutiques, petites épiceries, fruiteries, magasins de faïence et d'étoffes communes. J'aimais les bandes d'enfants déguenillés qui l'animent de leurs gambades, les femmes aux longs châles qui le traversent, les marchands de friture et de calamari, les vendeurs de polenta en plein vent, son va-et-vient bruyant où ne se mêlent que de rares touristes, la plupart se rendant au Carmini, à la Scuola, en gondole et par les canaux. Ce n'était pas par ce moyen que je comptais me mettre à la recherche de mon palais Altinengo. Au contraire, je me promettais le plaisir d'une longue promenade à pied. Je n'y éprouverai plus, je l'espérais bien, ce singulier malaise qui m'avait saisi la veille durant ma course nocturne et dont il me restait encore une sorte d'anxiété physique dont sans doute auraient raison le grand air et la lumière d'une belle journée. Je me résolus à la commencer par un déjeuner au restaurant. Celui vers lequel je me dirigeais est à peu de distance de l'hôtel, et lorsque j'eus commandé un plat de scampi et une bouteille de Valpolicella, mangé les délicats crustacés et bu quelques verres de vin mousseux, je me sentis dans un parfait équilibre d'esprit. Depuis longtemps, j'étais déshabitué de cette impression, et j'en attribuais le retour à la pacifiante atmosphère de Venise. N'avais-je pas eu raison de demander asile à l'hospitalière et silencieuse cité? Ces pensées m'occupèrent jusqu'à l'instant où, ma note payée, le garçon approcha la candela pour que je puisse y allumer mon Virginia, dont j'avais soyeusement extrait la paille. Les premières bouffées tirées, je consultai ma montre. Il était temps, par les pistes dallées des Calli, de gagner les Carmini et le palais Altinengo. Je me levai donc et me mis en chemin, et par San Fantin, San Mauricio et le Campo Morosini, j'atteignis la porte dell'Accademia qui traverse le grand canal en sa glorieuse perspective. Cette vue m'est familière, certes, mais elle excite toujours mon admiration. Je ne revois jamais la noble courbe de cette magnifique avenue d'eau sans être ému de sa beauté. Ce sentiment fut si fort que j'eus quelque peine à continuer ma route. Elle me menait à travers un des quartiers de Venise que je préfère et dont j'avais bien souvent parcouru les étroites calli et les tranquilles fondamenta. Mais aujourd'hui, je n'étais pas en humeur de flâner. Une sorte de hâte me pressait d'arriver à ce palais Altinengo que m'avait indiqué Plentinalia. Aussi, par la voie la plus directe, m'acheminai-je vers l'église des Carmini. Une fois là, il ne me fut pas difficile de découvrir les Fondamenta Fossalini. Il longe le Rio di Santo Margarita et commence en vue de l'église. C'est une étroite bande de quais le long d'un parapet et que bordent des maisons assez minables et de modeste apparence. Deux bâtisses, cependant, s'y distinguent des autres et sont visiblement d'anciens palais déchus de leur antique splendeur et loués par partie. L'un des deux, le Foscarini, a donné son nom aux Fondamenta. L'autre est l'Altinengo, de dimension moindre, mais également délabré. Construit au XVIIIe siècle, il comportait trois étages au-dessus d'un mezzanino. La façade, badigeonnée d'un crépi grisâtre, s'écaillait par places. Mais les belles lignes de l'architecture, l'harmonie des fenêtres à balcons ventrus, révélait encore ce qu'avait dû être jadis l'édifice. Une sorte de portail à colonnes, surmonté de vases de pierre, le précédait. Sur une de ces colonnes, des sonnettes apposées correspondaient aux différents étages du palais. Celle de l'entresol portait le nom de la Signora Verana. Avant de tirer l'anneau de fer de cette sonnette, je me reculai jusqu'au parapet pour considérer de nouveau ce palais Altinengo qui, sur les intentions de Plentinaglia, allait devenir mon logis. Les fenêtres du mezzanino montraient seules la bande de papier qui signale les appartements à louer. Les autres étages semblaient habités. Au balcon de l'un d'eux étaient tendus des sortes de stores de couleur ocre. À un autre, des pots de fleurs étaient suspendus en des espèces de paniers à salade. Les volets fermés du mezzanino étaient peints d'un vert délavé. L'aspect général de la demeure, misérable et peu engageant, attestait une caducité avancée. Mais j'avais confiance dans le goût de mon ami Plantinalia, et délibérément je tirai la sonnette qui devait me mettre en présence de la Signora Verana et me donner accès au palais Altilengo. Après un grincement, un carillon retentit lointain, fêlé. J'attendis un instant. Personne ne vint. Le portail demeurait clos. Je sonnai de nouveau. Pas de réponse. Décidément, la Signora Verana avait l'oreille dure. Je fis quelques pas en arrière et considérai de nouveau la façade du palais. Le soleil, tout à l'heure voilé d'un nuage, l'éclairait à présent et mettait à nu toute sa vétusté et toute sa misère. Cette constatation, qui aurait dû m'éloigner, me plut au contraire singulièrement. Soudain, je ressentais pour ce palais branlant et déjeté un attrait inexplicable, et que pourtant je tentais de raisonner. Il était à la fois si noble et si piteux, ce Palazzo Albinengo, si lépreux et si morose. Et puis quel silence alentour! Le campo devant l'église des Carmini était désert. Sur le pont, personne. Sur le rio, deux grosses barques vides, amarrées, geignaient doucement sur leurs chaînes. Dans l'eau, couleur de jade, des fans de légumes flottaient. Tout cela avait je ne sais quoi d'humble et de mystérieux, et formait un cadre si approprié à ce vieux palais déchu qui semblait prêt à vaciller sur ses pitoyens rochers. Non, je n'habiterai pas d'autre part à Venise, malgré l'obstination de cette signora Verana à ne pas me répondre à mon appel. Une fois de plus, je ressonnai sans résultat. Enfin, agacé, je tirai l'anneau de la sonnette correspondant à l'un des autres étages. Tant pis pour le locataire que je dérangerais ainsi. J'avais eu la main heureuse, car à l'un des balcons ventrus, sous le store de toile ocre, un vieil homme se pencha. Du haut de cette tribune improvisée, le vieil homme expliqua que la signora Verana était aujourd'hui à Mestre, mais qu'elle serait sûrement de retour le lendemain dans la matinée. Cette nouvelle me rassura, car d'ici à demain, personne ne louerait cet appartement que je ne savais trop pourquoi, je considérais déjà comme le mien. Elle me déçut, car j'aurais voulu pénétrer immédiatement dans le palais d'Altilengo. Cet empressement, d'ailleurs, ne fut pas sans m'étonner quelque peu. Depuis mon mal et mes chagrins, depuis que la vie n'était plus pour moi qu'une suite d'actes sans intérêt et indifféremment répétés, c'était la première fois que j'éprouvais un désir. Je ne pouvais pas plus empêcher que la signora Verona fût à Mestre, que demeurer indéfiniment à contempler cette porte close, d'autant que le ciel de mon nouveau de nouveau s'assombrissait et que les nuées, d'abord éparses, s'unissaient pour se tendre d'un tissu brumeux. Après donc un dernier regard au palais Altinengo, je m'acheminai au hasard par les calli voisines, tout en réfléchissant à l'étrange intérêt que prenait soudain pour moi cette façade de palais délabré, vers lequel m'envoyait le geste indicateur et cabalistique de mon ami Tiberio Plantinaglia, grand expert en location et grand connaisseur de la mystérieuse Venise. Quelques gouttes de pluie me tirèrent de ces réflexions que j'avais dû poursuivre assez longtemps, car je ne les interrompis qu'à une certaine distance des Carmini et à côté de l'église dédiée à San Giovanni de Collato, dans le dialecte vénitien, a fait Sanzan de Gola. Je me souvins alors que j'étais justement à quelques pas du musée civique. Pourquoi ne pas m'y abriter pour laisser passer l'averse? Si elle durait, le vaporetto qui fait escale au Fondotto del Carci, où est installé le musée, me ramènerait à la place Saint-Marc. Toute la vieille Venise revit dans ces salles du musée civique. Et j'avais jadis passé bien des heures à examiner les 1000 objets qui composent ce répertoire si évocateur des anciennes mœurs vénitiennes. Estampes, armes, étoffes, costumes, meubles, reliures. Mais ce jour-là, à peine un regard donné à la grande galerie où l'image de Molossini, le Péloponnésiaque, se dresse parmi des trophées de drapeaux, je me dirigeais avec un empressement subit vers la vitrine où j'avais jadis plus d'une fois admiré le petit buste du gentilhomme vénitien dont Plentilaglia m'avait conté la veille la mystérieuse évasion. Avec curiosité, je m'approchai. La place du buste demeurait vide, mais aucun des objets qui l'entouraient ne manquait. Toujours les mêmes vases en faïence de Bassano et de Nove, les mêmes tasses en porcelaine blanche ornées de petits paysages dorés. Seul était absent le mystérieux patricien au sourire énigmatique. Dans quelle main était-il tombé? Et pourquoi le voleur, parmi tant d'objets précieux que contenait le musée, avait-il choisi justement celui-là? Quelles pouvaient bien avoir été les raisons de ce singulier larcin? Car il y avait bien eu vol, et Plentinaglia perdait son temps à vouloir me mystifier avec ses histoires fantastiques. À quel mobile obéissait-il? Je lui en voulais un peu de ses divagations saugrenues. Il me jugeait bien crédule, mais je n'étais nullement disposé à me laisser troubler par de pareilles billevesées. L'hypothèse d'un vol paraissait sans doute trop simple à mon ami Plendinalia, et il en substituait une autre qui plaisait davantage à son imagination. Pourtant, ce vol, en tant que vol, demeurait intéressant parce qu'il y avait d'inexplicable en ces mobiles qui dénotaient une volonté bien particulière. Quelque collectionneur acharné avait-il employé ce moyen de s'approprier cet objet curieux? Quel rapport cela pouvait-il bien avoir avec les événements surnaturels dont Venise, au dire de Plentinaglia, était devenue le théâtre et au sujet desquels je demeurais fort sceptique? J'en étais là de mes rêveries quand elles furent interrompues par la toux proche de l'un des deux gardiens. Ma longue station devant la vitrine avait dû attirer son attention. Ce brave homme avait certainement pour consigne d'ouvrir l'œil sur les visiteurs, et je devais lui paraître suspect. Qui ne s'avisa pas, au moins, par excès de zèle, de me faire arrêter. Ma visite du lendemain, la signora Verana n'eût été compromise, et c'eût été là un mauvais tour que m'eût joué le malicieux gentilhomme vénitien. Je n'avais rien fait pour mériter qu'il exerçât contre moi sa malice. Il en donnait assez de preuves par sa mystérieuse disparition pour n'avoir besoin d'y ajouter aucun nouvel exploit. Ses pensées m'amusèrent tandis que je regagnais à pied mon hôtel et elles m'occupèrent encore lorsque le soir après dîner, je fus allé m'asseoir au café Florian. Je ne m'y trouvais pas seul, bien que ni Plentinaglia, ni Sperling, ni Hohenberg, aucun de mes compagnons d'autrefois, n'y eussent pris place à mes côtés sous le chinois. J'y avais, sans m'en douter, amené avec moi mon vénitien inconnu. Distinctement, je revoyais sa fine et narquoise physionomie, et curieusement, j'interrogeais son image. Qu'avait-il fait dans la vie pour qu'il en eût gardé ce sourire à la fois complaisant et mélancolique? De cette Venise du XVIIIe siècle, dont la mode de son costume et la forme de sa perruque l'attestaient contemporain, Il avait dû connaître tous les plaisirs, toutes les grâces, tous les raffinements. Il avait dû aimer et être aimé. L'amour lui avait-il été doux ou amer? À quoi pensait-il en se promenant sous ces mêmes arcades des Procrustes, coiffé du tricorne, couvert de la bahuta et le visage dissimulé par le masque de carton blanc? Mais de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'il avait été, il ne restait que ce buste fragile, aux yeux narquois et à la bouche fine, que ce buste énigmatique auquel l'événement, après tout singulier de sa disparition, ajoutait quelque chose de plus énigmatique encore. Cette fois, la Sirona Verana était chez elle, car à mon coup de sonnette répondit le grincement de la chaîne qui manœuvrait la serrure du grand portail. Il s'entr'ouvrit et j'en poussai le battant. Je me trouvais dans une étroite cour. Au fond, j'apercevais sous une voûte le commencement d'un large escalier de pierre. À droite, une autre porte assez basse et peinte du même vert délavé que les volets du mezzanino, derrière laquelle je ne tardais point à entendre un pas lourd et mou. Bientôt après, une main souleva un loquet, et soudain je me trouvai en présence de la Signora Verana. C'était une femme d'une soixantaine d'années, courte, trapue, vêtue de noir, le visage carré avec des yeux enfoncés, un teint jaune, des cheveux gris. Elle semblait méfiante et taciturne, et me considérait avec une curiosité et sans bienveillance. Cependant, au nom de Plentinaglia, sa figure s'éclaira d'une espèce de sourire, et elle esquissa une manière de révérence qui n'était pas sans dignité. Après quoi, le colloque commença. La signora écoutait mes explications, les yeux baissés. Quand je les eus terminées, tant bien que mal, car mon vénitien n'est pas impeccable, la signora Verana sourit de nouveau. Évidemment, je lui devenais plus sympathique qu'à l'abord, et ce fut presque avec intérêt qu'elle me répondit. Le signore Plentiglia a dit vrai. Le mezzanino est à louer. Mais vous a-t-il dit aussi que les chambres n'ont pas été occupées depuis longtemps, et que vous y serez très isolé, sans aucune communication avec le reste du palais? Le mezzanino, en effet, ainsi que me l'expliquait la signora Verana, formait un appartement tout à fait séparé. On y pénétrait par la porte verte au seuil de laquelle nous parlementions. L'escalier, que l'on apercevait au fond de l'étroite cour, desservait les autres étages. Et c'était à un de ces étages que se retirerait la signora Verana si elle louait le mezzanino dont elle occupait momentanément une des chambres. Néanmoins, elle ne refuserait pas, en cas de location, de se charger du ménage du locataire, malgré les incommodités du service. Toutes les explications plutôt peu engageantes de la signora Verana ne me décourageaient nullement. Au contraire, ce manque de voisinage, cette solitude, me plaisait comme m'avait plu l'aspect délabré et branlant de cet étrange palais d'Alinengo. Néanmoins, je me demandais pourquoi, des nombreux appartements que l'on trouve à louer à Venise, Plentinalia m'indiquait celui-là comme devant me convenir particulièrement. La plupart du temps, ce palais déchu des quartiers populaires ne garde rien de leur ancienne décoration intérieure. L'antiquaire a passé par là et l'Altinengo devait être dans ce cas. Quoique l'on eût écrit dans sa lettre le signore Plentinalia. De plus, sur l'aspect extérieur et sa situation n'avait rien de remarquablement pittoresque. Et cependant, je ne doutais pas que Plentinalia n'eût eu ses raisons pour m'adresser à la signora Verana. De toute façon, d'ailleurs, il fallait que je voie Zistas, le mezzanino. La signora Verana chiesa ma domande. Non sans politesse, elle s'excusa de me précéder pour me montrer le chemin. La porte franchie s'offrait à un escalier assez obscur et dont je sentais sous mes pas les marches usées. Dans le gravissant, je remarquai le salpêtre qui couvrait le mur. Le palais Altinengo s'annonçait comme devant être fort humide. Et l'on était encore dans la belle saison. Que serait-ce durant les mois d'hiver? Je l'allais faire observer à la signora Verana quand elle s'arrêta devant une porte fermée. Du palier, je l'examinai avec une certaine surprise, mélangée d'un certain espoir. Cette porte, car elle était très belle, en bois naturel, noueux, merveilleusement patiné et veiné, et rehaussée de ferrures de cuivre. Pendant que la signora Verana en rarabustait la serrure détraquée, je remarquai dans le pavimento brun et noir quelque chose de brillant. Parmi les petits cubes de marbre qui formaient ce pavimento, un fragment de nacre était incrusté. Cette bizarrerie m'intéressa. Je retrouvais là mon plaintilalia, et je commençais à comprendre pourquoi je jugeais ce palais Altinengo digne d'une visite, et m'avait indiqué, dans ce lointain et solitaire quartier des Carmini, le mezzanino à louer de la signora Verana, et son menu disque de nacre posé à son seuil comme une mouche de lune à quelque visage vénitien d'autrefois. Le vestibule où nous pénétrâmes était assez vaste. Les murs s'agrémentaient d'arabesques et d'entrelacs de stuc d'une couleur brise bise sur un fond rose. Au plafond, les mêmes ornements encadraient les médaillons dont je distinguais mal les sujets dans la demi-obscurité. Tout cela, il va sans dire, révélait un état d'extrême décrépitude. L'enduit des murs s'égaillait et les stucs des moulures s'ébréchaient, mais l'ensemble avait cette sorte de grâce, à la fois élégante et minable, qui fait le charme appauvri et mélancolique des vieilles demeures vénitiennes. Sur ce vestibule, plusieurs portes de ce même bois noueux et veiné devaient donner accès aux diverses parties du logis. Celle vers laquelle se dirigea la signora Verana s'ouvrait sur une chambre de belles dimensions, également assez obscure, où je remarquai néanmoins, tout d'abord, une magnifique cheminée en marbre vert antique. Je la vis mieux quand la signora eut poussé les volets disjoints des fenêtres qui donnaient sur le Rio de Santa Margherita. Sauf cette cheminée, cette chambre n'offrait rien de remarquable. Des lambeaux de papier pendaient des murailles. À vrai dire, elle était inhabitable et je commençais à douter que je pusse jamais m'installer au palais Altinengo. Aussi fut-ce sans grand empressement que je suivis la signora Verana dans la pièce contiguë à celle-là. Cette seconde pièce, infiniment mieux conservée que la précédente, présentait un décor curieux et original. Certes, le plafond se lézardait et les panneaux avaient perdu les tentures qui les recouvraient jadis, remplacées par une couche de peinture, mais ces panneaux vides étaient entourés de banderoles de stuc et surmontés de médaillons où se détachaient, finement modelés en pousses, des figures mythologiques. Sur le pavimento de mosaïque, se déroulait une guirlande de fruits et de fleurs qui s'épanchait aux quatre coins de quatre cornes d'abondance. L'ensemble de cette décoration était d'un goût charmant et d'une charmante couleur. Malheureusement, je ne voyais pas très bien le moyen d'en tirer parti, et le meilleur me semblait d'en emporter l'agréable souvenir et de chercher autre part où fixer mes pénates que dans ce mezzanino baroque, mais pas trop inconfortable, du palais Altinengo. J'allais m'en expliquer avec la signora Verana, mais elle avait disparu et je l'entendais pousser les volets de la pièce où elle m'avait précédé et au seuil de laquelle je m'arrêtais soudain, fasciné. Ah, cette fois, je comprenais tout à fait mon amie Plentina Lilia. C'était une sorte de salon à peu près carré, à deux fenêtres entre lesquelles une cheminée de marbre jaune se dressait surmontée d'un miroir à volutes dorées. Le ton du marbre et des vieux ors se complétait par la couleur des murs. Ils étaient peints d'une couleur jaune, d'un jaune délicieux, ambré comme du miel, et sur ce fond, d'une exquise et molle douceur de teinte, se détachaient en blanc des moulures de stuc formant des arabesques symétriques. Ces arabesques, d'un dessin et d'une fantaisie admirables, sur chacun des trois côtés de la pièce, encadraient de grands panneaux de faïence blanche où étaient figurées en or et en noir des scènes de chinoiserie. À droite et à gauche de chacun de ces tableaux, deux autres plus petits hors leur même cadre stuc. Au plafond, le même décor de chinoiserie se continuait et se complétait à la fresque par des oiseaux, des fleurs et des insectes. Le pavimento s'incrustait çà et là de fragments de nacre, et à l'un des angles du salon, une haute glace dans un cadre de marbre jaune, debout, le reflétait en toute sa fantaisie somptueuse et saugrenue, en tout son mystère imprévu et charmant. Certes, j'avais admiré plus d'une fois à Venise les délicats travaux de stuc où excellent les décorateurs vénitiens, mais je n'avais jamais rien vu de pareil à ce que j'avais sous les yeux, rien qui atteignît cette beauté dans le fantaisie. Miroirs, arabesques, figures, faïences, tout cela formait un ensemble d'un raffinement et d'une grâce unique. Il s'en dégageait une impression de surprise et de mystère à rencontrer cette merveille inattendue au fond de ce vieux palais si pauvrement misérable, si irrémédiablement caduque avec sa façade grise, ses volets verdâtres, son air déchu et utilisé. Ah, oh, Plentinalia avait bien deviné quel attrait exercerait sur moi ce décor. En indiquant à mes recherches cet antique palazzo perdu dans le lointain quartier de Venise. Quel lieu plus propice à abriter ma solitude par son silence et son éloignement, à l'adoucir par cette atmosphère de miel doré, à l'occuper par ces arabesques favorables à l'enroulement des rêveries, et à l'amuser par ces figures chinoises qui seraient les interlocutrices minuscules et complaisantes de mon loisir mélancolique. Je m'étais tourné vers la signora Verana. Oh, tout cela me convient parfaitement, signora Verana. Voulez-vous me préparer l'engagement? Je voudrais m'installer ici le plus tôt possible. La signora Verana, qui n'avait pas prononcé une parole durant ma visite, acquiesça en me demandant d'un signe de tête. Ce mutisme me paraissait de bon augure. Puisque la signora devait se charger de mon service, je n'aurais pas à redouter ses bavardages. Cette personne taciturne serait la gouvernante rêvée, et gouvernante était le terme juste, car la Verana, par ses manières réservées, différait assez des serviteurs ordinaires. Certes, elle n'avait pas la cocasse gentillesse des bonnes sorelle Letrigiani, mais à défaut des mille attentions dont me comblaient les chères vieilles, je trouverais au moins dans cette matrone au visage peu avenant, mais correct, le respect de mes habitudes et les soins indispensables. Il y avait encore, de l'autre côté du vestibule, un certain nombre de pièces qui dépendaient du mezzanino. Je dus y suivre la signora Verana. C'était dans l'une d'elles qu'elle habitait provisoirement auprès d'une petite cuisine. Elle m'expliqua brièvement que, dès mon arrivée, elle se retirerait chez des amis qui logeaient à l'un des étages du palais. Je serais donc, comme elle m'en avait prévenu, entièrement seul au mien. Elle n'y viendrait que pour les besoins du service, assez simple, que je lui demandais. Or, cette chambre, à peu près habitable, toute cette partie du palais était dans un état de délabrement extrême et semblait vraiment menacer ruine. Mon domaine se terminait par une assez large grande salle, d'où un escalier extérieur donnait accès à un jardin planté de légumes ou de quelques arbres. Au bout de ce jardin se dressait une construction bizarre, sorte de petit temple à colonnes et à fronton, l'ancien casino du palais. Je ne jetai sur tout cela qu'un coup d'œil assez indifférent. J'étais pressé de revoir le salon des stucs. Un rayon de soleil le faisait plus doré et plus beau encore. Une atmosphère d'une lumineuse tristesse l'emplissait, et je me sentais étreint d'une émotion indéfinissable. Ne serais-je pas un intrus dans ces lieux? N'allais-je pas troubler leur abandon? De quel droit, après tout, osais-je m'introduire en leur silencieux mystère? Hélas, en tout cas, je ne serais pas un intrus bien gênant. Je n'y apporterais avec moi ni la joie bruyante de la jeunesse, ni les rires de la santé. Je faisais si peu partie de la vie. Et cependant, c'était pour essayer de revivre que je revenais dans cette Venise, chercher dans mon passé de quoi y rattacher ma misère présente. Vaine tentative, chimérique espoir, c'était à peine un vivant qu'accueillerait dans sa paix à demi morte ce vieux palais Altinengo. Et soudain, dans la grande glace, debout dans son cadre de marbre, je m'aperçus lointain et vague, comme si mon image fût soudain entrée dans la région reflétée et muette des ombres. Il me fallut une semaine pour procéder à l'installation sommaire de mon nouveau logis. Mon premier soin fut d'y faire opérer un nettoyage complet et minutieux. La signora Verana s'en chargea, par le moyen de deux vieilles voisines, qui époussetèrent soigneusement les murs et lavèrent à grande eau les pavages de mosaïque. Pendant que les deux travailleuses s'activaient à cette tâche, je m'occupais de pourvoir mon coin de palais du mobilier nécessaire. Grâce aux adresses laissées en partant par Plentinalia, je pus louer un lit de fer très propre avec sa literie neuve et une toilette munie de ses ustensiles. Le linge indispensable, je l'achetais. Quant aux autres meubles, l'idée d'enlaidir mon fantasque domaine de vilains objets modernes me répugnant, je m'adressais à l'honnête Lorenzo Zottarelli. Zottarelli est un antiquaire de Venise, recommandé jadis par mes amis, les C, qui en avaient été contents. Je n'avais pas eu à m'en plaindre. Certes, tout ce que vase Zottarelli n'est pas rigoureusement ancien, mais s'il ne l'avoue pas ouvertement, il a, en face des pièces suspectes, un sourire si entendu qu'avec un peu d'habitude, on est renseigné sur leur authenticité. Si l'acheteur ne comprend pas l'avertissement et persévère dans son projet, Zottarelli ne va pas jusqu'à s'y opposer. Ce serait vraiment trop lui demander. Chaque métier a sa morale et Zottarelli a celle du sien. Tant pis pour les amateurs ignares et pour les connaisseurs présomptueux. Zottarelli est donc, à son point de vue, un fort honnête homme et de plus un homme excellent et aimablement serviable. Il occupait dans la Spadaria, derrière la place Saint-Marc, une boutique exiguë où s'entassaient en désordre verreries, faïences, dentelles, menus bibelots. Mais dans les environs de Santa Maria Formosa, Un autre magasin lui servait à abriter des objets plus encombrants. Maintes fois, j'avais déjà eu recours à ces bons offices, car sans être collectionneur, je ne suis pas sans avoir rassemblé durant mes nombreux séjours à Venise quelques vieilleries vénitiennes. Il se trouvait donc tout indiqué que je recourus à lui dans la précédente occasion où il s'agissait qu'il me vendît en meubles anciens ce dont j'avais besoin, avec promesse de les reprendre lors de mon départ. Quand je pénétrai dans la boutique de sa Spadaria, Zottarelli déballait un de ses surtouts en verre de Venise, formé d'un ensemble de vases, de statuettes, de balustrades, de colonnes et de portiques, qui transforme la table au centre de laquelle on les pose en un jardin minuscule, fragile et charmant. Tout à son occupation délicate, il ne me vit pas entrer, et je pus l'examiner à l'aise, ce que je n'avais jamais fait, car mon attention allait d'ordinaire davantage aux objets qu'aux marchands. Zottarelli m'apparut donc comme un petit homme replet, avec une grosse tête et des mains habiles. J'admirai leur dextérité quand il m'aperçut, ce qui lui fit pousser une exclamation de bienvenue, bientôt suivie du dialogue d'usage au cours duquel j'en vais naturellement lui faire part de mes intentions au sujet du palais Altinengo. Que j'en fusse devenu locataire parut le surprendre un peu, car il me considéra d'un air singulier. Au nom de Prentilalia, il esquissa une grimace que je remarquai et que j'attribuai à quelques bisbilles entre eux. D'ailleurs, Zottarelli ne fit suivre sa grimace d'aucun commentaire et m'offrit de me conduire sur le champ à son magasin de Santa Maria Formosa. Lorsque j'eus choisi les divers meubles qui me paraissaient le mieux à ma convenance, Zottarelli me dit: « Alors, j'enverrai tout cela au palais Altinengo, à Icarmini, chez la signora Verana. » Il connaissait donc la signora Verana. L'occasion me parut bonne à me renseigner sur cette personne. Qui était-elle? Pouvait-on avoir confiance en elle? Comment et à quel titre disposait-elle d'un étage à louer de ce vieux palais délabré? À mes questions, Zottarelli, assez volontiers bavard d'ordinaire, répondait évasivement et prudemment, comme quelqu'un qui tient à demeurer sur la réserve. La Verana était une dame de bonne famille qui avait eu des malheurs. Il la connaissait et ne la connaissait pas. Il avait connu des parents à elle. Elle avait été longtemps absente de Venise. C'était probablement une très estimable dame, mais il n'en pouvait rien dire. Sait-on jamais avec les gens? Et Zottarelli prenait la figure qu'il faisait en face des objets suspects. Cette attitude m'intriguait. Pourquoi toutes ces réticences? Et comme je le poussais davantage, il finit par me dire brusquement: « Je ne sais rien de plus, que diable! Demandez au signore Prentinaglia, puisque c'est lui qui vous a envoyé là, à ce palais Altinengo. Enfin, ah oui, cette Verana, je crois me rappeler qu'elle a été un temps gouvernante chez Lord Sperling à la Casa degli Spiriti. Puis elle a quitté la place. On dit qu'elle aurait voulu ouvrir une pension de famille au palais Altinengo, mais le palais est mal situé, il faudrait trop de réparations. Bon, alors vous n'avez pas besoin d'autre chose. » Évidemment, ma détermination d'habiter ce palais solitaire et caduc, loin des quartiers fréquentés de Venise, de la place Saint-Marc et de la Spadaria, surprenait l'excellent Zottarelli. Sans qu'il se permît aucune observation directe, il était visible qu'il désapprouvait mon projet. Zottarelli voyait avec regret ses meubles émigrer vers le lointain Mezzanino des Fondamenta Foscarini. Cependant, il me promit de les envoyer dès le lendemain. Mais je remarquai que lui, si serviable à l'ordinaire, ne m'offrait pas de les y conduire lui-même et de m'aider à les installer. Zottarelli avait, contre Plentilaglia, contre la Signora Verana et contre le palais Altinengo, une prévention que je ne m'expliquais pas. Oh, les âmes vénitiennes sont compliquées et secrètes, et je savais bien que je ne tirais rien de plus de mon bonhomme. Il me restait encore quelques courses à faire avant le dîner. Je voulais acheter pour les deux vieilles qui avaient nettoyé mon futur logis de ces châles que l'on vend aux boutiques du Rialto. Je me dirigeais donc de ce côté quand soudain je me sentis fatigué. Une sorte de vertige m'étourdissait à croire que j'allais tomber. Je me retrouvais à ce moment devant l'église de Santa Maria Formosa. Sur le Rio, une gondole vide passait. Je fis signe au gondolier qui accosta aux marches de l'escalier. De son crochet, le rampino qui rôdait, accouru, retenait le bordage. Une fois affalé sur les coussins, je me rassurai, mais ces alertes me prouvaient que mes forces ne m'étaient pas revenues. L'avertissement reçu le soir de mon arrivée aurait dû me rendre plus prudent. Un tour en lagune me remettrait. Rien n'est plus reposant pour les nerfs surmenés. Ces promenades avaient toujours été l'une de mes plus chères passions vénitiennes. Pour elles seules, j'usais de la gondole dont je ne me servais guère autrement, lui préférant la flânerie pédestre. Mais pour l'instant, j'eusse été incapable de déambuler à travers les calli. Mon malaise s'en fut exaspéré, tandis que déjà il s'apaisait par l'allongement au coussin et par le balancement cadencé de la barque souple. Celle que je venais de prendre était justement excellente. Elle était premiata, ce qui dit des gondoles dont les Bacroy ont remporté un prix aux régates. Ce barcarolle était un grand gaillard, svelte et élégant, rameur habile, ainsi que je m'en aperçus dès son premier coup de rame. Aussi eûmes-nous parcouru assez rapidement la distance qui sépara Santa Maria Formosa des Fondamenta Nuove, où le Rio degli Mendicanti aboutit à la lagune et courbe sur le ciel et l'eau l'arche puissante et noble de son beau pont de marbre. J'aime beaucoup entrer en lagune par le Rio et ce pont dei Mendicanti. Dès qu'on l'a franchi, toute l'étendue des eaux apparaît plate, calme et harmonieusement nuancée. Nulle part, le vaste miroir marin qui entoure Venise n'est plus uni et plus apaisé. La marée se fait peu sentir en cette partie de la lagune, que l'on appelle la lagune morte, et qui baigne, comme pour mieux encore justifier ce nom, l'île des morts, la rouge San Michele et aux murailles pourpres et crénelées, pareille à la forteresse du sommeil. C'est elle aussi, cette lagune aux eaux somnolentes, qui entoure de son éternel silence les autres îles, qui forment avec San Michele et au flanc de Venise insulaire son archipel septentrional. Murano, ou boulevard aux fournaises, Burano, où les doigts agiles des dentelières entrelacent les arabesques célèbres de la fantaisie vénitienne, Torcello et Massobo, où vit la fièvre, San Francesco in deserto, qui reflète ces cyprès franciscains à une eau étrangement solitaire. Tout cet ensemble est certes d'une singulière mélancolie, bien que parfois la lagune s'irise d'extraordinaires jeux de lumière. J'y ai contemplé de prodigieuses fêtes de couleurs, mais le plus souvent, ce qui y domine, c'est une impression de tristesse sans amertume, d'une misère sans regret, d'une solitude sans angoisse, tant elle est faite de paix, de monotonie et de silence. Ce jour-là, je dois le dire, l'aspect des choses était fort mélancolique. Une sorte de brume d'une extrême finesse flottait entre le ciel et l'eau. Elle enveloppait San Michele de son tissu humide et léger et faisait de Murano une espèce d'île fantôme. Ce n'était pas un jour à s'aventurer loin et à aller goûter en pleine lagune le sentiment si particulier qu'on y éprouve, en de pareils crépuscules brumeux, à ne s'y sentir nulle part dans la vie. D'ailleurs, l'heure était avancée. Aussi commandai-je au gondolier de contourner simplement la ville et d'y rentrer par le Canaleggio. Il se conforma aussitôt à l'ordre donné, et la gondole continua à glisser moelleusement sous l'impulsion régulière de la rame. Je l'écoutais, les yeux faits à demi fermés. J'écoutais le pas de l'homme sur le tapis de pourpre, les bruits divers de l'eau et du bois avec une attention rassurée. Cela faisait une distraction à l'indéfinissable malaise que je ressentais de nouveau, à cette espèce d'anxiété sans raison qui facilement ressemblait à de la peur. Et cependant, il n'y avait rien qui pût motiver cette absurde sensation. Néanmoins, à mesure que nous voguions sur cette immobile, mon inquiétude intérieure augmentait. En vain, par diversion, j'essayais de penser à des choses précises, aux meubles choisis chez Ottarelli, à certains détails d'ornementation du palais Altinengo, même à ce que je mangerais à dîner. Malgré tout, la même impression continuait à m'étreindre jusqu'à la souffrance. Cela fut si fort que j'en vins à interpeller le gondolier pour tâcher de rompre l'angoisse qui m'oppressait, et brusquement je me retournai vers lui. À mon geste, il crut sans doute que je lui demandais où nous étions, car désignant une bâtisse carrée qui se dressait dans la brume au point le plus avancé de Venise dans la lagune, il me cria en se penchant sur sa rame: C'est la Casa degli Spiriti, signore! Nous nous trouvions en effet devant la Casa degli Spiriti. Elle n'avait guère changé depuis l'époque où je l'avais vue pour la dernière fois, avant que Lord Sperling l'achetât pour y installer, sans doute loin des indiscrets, son laboratoire de recherche psychique, car Sperling était un adepte des sciences occultes. Déjà, quand je l'avais connu, il se montrait très préoccupé de ces questions. Malgré sa nouvelle destination et son nouveau propriétaire, la casa présentait toujours à peu près le même aspect. L'extérieur n'en avait pas été modifié. La façade était toujours badigeonnée du même crépi jaune. Lord Sperling s'était borné à rétablir certaines fenêtres jadis bouchées, à réparer certains balcons démantelés et à faire reconstruire les hautes cheminées en bottes et à turban, si caractéristiques des demeures vénitiennes, mais c'était à l'intérieur qu'il avait dit surtout opérer les restaurations dont parlait Previnaglia. Il était possible que la casa, un ancien palais Salvizzi, y conservait des décorations dont Lord Sperling pouvait fort bien avoir su tirer parti. Il ne manquait ni de goût ni de curiosité, et du temps que je le fréquentais et où nous nous retrouvions avec Hohenberg et Brentaviglia sous le chinois du Florian, je l'avais vu acheter force meubles anciens en vue d'une installation future à Venise. À cette époque, il vivait à l'hôtel, laissant ses acquisitions en dépôt chez les marchands. Il les en avait sans doute extraites pour en orner les salles de la casa, dont le jardin, qui donnait sur la lagune, par une terrasse jadis à l'abandon, montrait à présent des arbres soigneusement taillés et des buissons de roses qui, débordant la balustrade, pendaient presque jusque sur l'eau. En dépit de cette terrasse fleurie, La Casa degli Spiriti n'en conservait pas moins un aspect assez peu avenant, auquel la brume donnait un caractère de mystérieuse singularité. Certes, Lord Sperling avait trouvé là un lieu fort propice à ses travaux. Personne ne l'y venait venir déranger dans ses incantations et ses expériences. Le fait que Sperling eût été disciple de William Crookes ne laissait pas de doute sur leur nature. Déjà, comme je l'ai dit, dès l'époque du Chinois, Sperling s'était enclin à ses curiosités de l'au-delà. Souvent, je l'avais entendu relater les surprenants résultats atteints par le savant anglais. Phénomènes étranges, lévitation, transport d'objets, apport de fleurs mystérieuses, matérialisation qu'enregistrait la plaque photographique. Après en avoir étudié la théorie, Sperling avait dû vouloir passer à la pratique. De là, l'achat de la Casa degli Spiriti, dont le surnom populaire lui paraissait sans doute de bon augure. Tous ces miracles que Crookes observait par des médiums appropriés, Sperling les devait chercher par les mêmes moyens. À ce point de vue, Venise ne devait pas manquer de ressources. Et je me demandais si cette signora Verana, que Zottarelli m'avait dit avoir été au service de Sperling, n'avait pas joué un rôle dans les expériences psychiques du dit Sperling, et si après tout, l'insolite disparition du petit buste du musée civique n'était pas sans corrélation avec les jeux fantasmagoriques dont le superstitieux Pentilaglia m'avait signalé l'existence lors de notre rencontre au café Florian. Quoi qu'il en fût, tout cela importait assez peu. L'essentiel n'était-il pas que Pentilaglia m'eût indiqué le palais Altinengo et que la signora Verana s'acquitta ponctuellement des soins qu'elle s'était engagée à me donner. Quant au charmant buste du musée civique, qu'il eût disparu de sa vitrine du fait de quelques voleurs ou par l'artifice de quelques sorciers, cela ne me regardait pas. Le fin seigneur vénitien qui représentait était de force à se tirer de l'un ou l'autre de ses mauvais pas. Il avait dû avoir de son vivant maintes aventures, et celle-là n'est pas pour déplaire à son ombre ironique et souriante. Comme je réfléchissais à ces choses, la gondole atteignit l'entrée du Cannareggio. Derrière nous, la lagune étendait ses eaux brumeuses et crépusculaires, d'où montait une odeur à la fois saline et limoneuse. Devant nous, les premières lumières s'allumaient aux lanternes et aux façades des vieux palais des deux rives, si pittoresques en leur décrépitude populeuse et vivante. Au silence des ondes mortes succédait la rumeur grouillante d'un quartier animé. Nous croisions de lourdes barques ou de rapides sandales, et peu à peu, à chaque coup de rame, nous rentrions dans la vie, et j'en éprouvais un indéniable soulagement, si bien que lorsque nous arrivâmes au Rialto, je fis signe au gondolier d'accoster. Je voulais rentrer à pied à l'hôtel après avoir acheté dans une des boutiques du pont les deux châles vénitiens que je me proposais d'offrir aux deux vieilles qui, sous les ordres de la signora Verana, avait contribué au nettoyage de mon mezzanino du palais Altivango, dont j'allais enfin bientôt prendre possession.